Il est 6h02. Jetons un œil à la météo. Aujourd'hui, c'est un ciel dégagé, là. Dégagement ce matin, en fait. Et le maximum sera de 24 degrés aujourd'hui. Alors, c'est une belle journée. Ce soir et cette nuit, ce sera dégagé également. Ça va devenir partiellement nuageux vers minuit. Demain, jeudi, généralement ensoleillé en début de journée. L'ennuagement se fait en après-midi. Ce sera suivi d'averses. Il fera 25 degrés. Et de la pluie prévue pour la nuit de jeudi à vendredi. Des averses également pour vendredi avec 20 degrés. Il fait 16 en ce moment à Montréal. Bon, jetons un petit coup d'œil. On parle évidemment beaucoup de cette histoire de Logan Mailloux, ce joueur du Canadien, en fait, qui a été repêché par le Canadien de Montréal. On ne peut pas dire que c'est encore un joueur du Canadien parce qu'on ne sait pas où il va jouer la saison prochaine, mais ça éclabousse, bien sûr, l'image de marque du Canadien de Montréal. Logan Mailloux a été reconnu coupable de crimes sexuels il y a moins d'un an et ça continue à prendre de l'ampleur. Il y a plusieurs commanditaires, entre autres, qui réfléchissent à leur collaboration, si on veut, ou à leur contrat de publicité avec le Canadien, entre autres La Cage, Brasserie Sportive, Desjardins, le groupe Jean Coutu. Tous ces gens-là réfléchissent. Il y a Intact Assurance aussi. Et on a vu un petit peu plus tôt les rôtisseries Saint-Hubert qui se disent « Ben là, peut-être que ça correspond pas à l'image qu'on veut projeter de notre entreprise. » Alors, Justin Trudeau, hier, en a ajouté, il a qualifié le choix du tricolore d'erreur de jugement et des partenaires ont donc exprimé l'inconfort qu'ils ressentent. Et jusqu'ici, on n'a pas vu Jeff Molson. Où est Jeff Molson quand on a besoin de lui? Il est resté muet jusqu'à maintenant. Pour l'instant, c'est Marc Bergevin qui pourrait profiter aujourd'hui du point de presse sur la chasse aux joueurs autonomes pour donner les grandes lignes du plan de l'organisation au sujet de ce joueur Logan Mailloux. Qu'est-ce qu'on va faire? On entend que peut-être on pourrait l'envoyer dans les mineurs pendant un an, se faire oublier un peu, là, puis se refaire une espèce de réputation, appelons ça comme ça, là. Mais de toute façon, comme disait François Bessette tout à l'heure, il y avait peu de chances déjà que Logan Mailloux joue dans l'organisation du Canadien cette année. Alors, c'est un peu comme noyer le poisson, là. Le premier ministre Justin Trudeau, lui, qui se décrit comme un grand fan du Canadien, s'est dit très déçu du choix. Il dit le Canadien a des explications à fournir aux Montréalais et aux fans à travers le pays. On va y revenir un peu plus tard dans cette émission. Est-ce que le Canadien pourrait renier, si on veut, son premier choix, c'est-à-dire décider là de ne pas honorer la décision qu'ils ont prise cette semaine, vendredi dernier? Ben, il y a des précédents, ce qu'on peut lire dans le journal La Presse ce matin, notamment les Coyotes de l'Arizona qui avaient renoncé à leur droit sur le joueur espoir Mitchell Miller. C'était en 2020, donc l'an passé, parce qu'on avait révélé qu'il avait été impliqué dans un dossier d'intimidation et de racisme auprès d'un ex-collègue de classe noir. Et donc, dans les jours qui avaient suivi la controverse, les Coyotes avaient d'abord dit vouloir travailler avec l'espoir pour essayer de confronter l'intimidation et le racisme. C'est un peu la même approche qu'on adopte avec le Canadien dans ce cas-ci. C'est sur les crimes sexuels. Puis finalement, ben après le tollé que ça avait soulevé, on a décidé de renoncer aux droits, tout en admettant qu'ils connaissaient déjà cette histoire de racisme qui impliquait leur joueur. Alors, il y a des précédents, ça pourrait se faire si le Canadien décidait d'abandonner ce choix de première ronde. Bon, à part ça, dans le journal de Montréal, on revient sur ce qui se passe aux États-Unis. Sabrina nous en parlait tout à l'heure. Aux États-Unis, également en France, on est en train de remettre des mesures sanitaires pour essayer de contrer le fameux variant Delta. Et donc, on réinstaure le port du masque obligatoire dans certains lieux. Le président américain, d'ailleurs, Joe Biden, n'écarte pas la vaccination obligatoire pour tous les employés du gouvernement fédéral. On parle de 2,1 millions de personnes. Ça, c'est sans compter l'armée, là. Et dans certaines zones de transmission importantes aux États-Unis, les CDC, le Center for Disease Control, c'est la santé publique de certains États américains, là, recommandent aux personnes entièrement vaccinées de porter des masques dans les lieux publics et à l'intérieur, en intérieur. Et même en France, où le variant Delta aussi fait des ravages, le port du couvre-visage à l'extérieur est aussi redevenu la règle dans certaines portions de la côte ouest de la France en raison d'une aggravation de la situation sanitaire là-bas. Entre autres, on parle de toute la frontière, là, en fait, la côte ouest, si on veut, de la France jusqu'à l'Espagne, où on recommande, ou en fait, on demande, on oblige, si on veut, le port du masque à l'extérieur. Et même le port du couvre-visage concerne de nombreuses régions comme la Corse, l'Est, le Sud-Est et maintenant le Sud-Ouest de la France. Et dans certaines préfectures, on a même interdit la consommation d'alcool à l'extérieur et les rassemblements de plus de 10 personnes, notamment sur les plages. Alors, ça fait des ravages en France. Est-ce que la situation pourrait aussi se produire au Québec? Eh bien, après s'être fait discret, le variant Delta semble prendre racine au Québec. C'est ce qu'on peut lire dans le journal La Presse, où maintenant, là, c'est un cas sur quatre. C'est 25 % des cas, même davantage que ça, qui seraient liés au fameux variant Delta. Ça a commencé, c'était 5 % il y a deux semaines. Après ça, c'est monté à 8 % Là, on est à 8 % de cas reconnus, là, de cas identifiés, mais l'Institut national de santé publique, l'INSPQ, analyse actuellement 31 % de cas potentiels qui sont reliés au Delta. Et même ce qu'on dit à l'INSPQ, c'est que souvent, comme une partie des échantillons qu'on obtient décèle une petite quantité de matériel génétique, parfois c'est trop faible pour être capable de l'identifier. Donc ce serait probablement davantage que les 31 % qu'on est en train d'étudier en ce moment. Alors on va parler au docteur Gaston Deserre de l'INSPQ un peu plus tard dans cette émission. Il y a ça qui est inquiétant et les myopéricardites aussi, dont on vous a parlé un peu plus tôt cette semaine, à savoir, ça c'est des effets secondaires qui peuvent être reliés à l'administration du vaccin, soit Moderna ou Pfizer, les vaccins qu'on appelle à ARN messager. Et bon, on avait beaucoup parlé des cas de thrombose là, dans le cas d'AstraZeneca, mais dans le cas de Pfizer et de Moderna, c'est les myopéricardites et les péricardites qui peuvent survenir par la suite. On parle d'un cas sur 10 000, donc c'est quand même assez répandu. Et il y a même eu une dame de 83 ans qui est décédée des suites de ça. Alors, on en avait peu entendu parler dans le cas de Pfizer et Moderna. Pour vous donner un comparatif, les cas de thrombose avec AstraZeneca, c'était 1 sur 100 000. Là, on est à 1 sur 10 000. Par contre, ce qu'on dit, c'est que les myopéricardites et les péricardites se soignent avec l'administration d'un antibiotique, se soignent assez facilement. Mais il reste quand même que c'est inquiétant et on va en reparler un peu plus tard dans cette émission, bien sûr. Bon, suffisamment de vaccins pour protéger tout le monde au Canada. On est rendu là, on a reçu jusqu'à maintenant 66 millions de doses. On en aura 68 millions d'ici la fin de la semaine. Alors, le Canada a atteint son objectif d'approvisionnement 2 mois plus tôt que prévu. Alors, si vous n'allez pas vous faire vacciner, ben c'est pas une question de disponibilité. C'est vraiment, on a tous les vaccins disponibles, possibles et imaginables. Il n'y a aucune raison de disponibilité pour ne pas le faire. Les autres raisons peuvent s'appliquer, mais surtout pas un cas de disponibilité de vaccins. Et dans la Gazette ce matin, on repose la question, on va la poser nous autres aussi un peu plus tard dans cette émission, à savoir, compte tenu que le variant Delta est très, très contagieux, on dit qu'il est 50 % plus contagieux que les autres, et que ça va amener nécessairement, et on le voit dans les statistiques, une hausse de cas liée au Delta, ben est-ce qu'on ne devrait pas faire comme ce qu'on est en train de recommander aux États-Unis, c'est-à-dire lors de la rentrée scolaire, demander à ce que les jeunes, même s'il y a un taux de vaccination qui va être atteint, là, qui va être assez élevé, dit-on, dans certaines écoles, peut-être moins dans d'autres, est-ce qu'on ne devrait pas imposer aux jeunes, dans les écoles primaires, secondaires et même universitaires, de porter le fameux masque pour éviter justement des problèmes avec le variant Delta? Parce que l'ennui du Delta, là, c'est que, bon, oui, c'est vrai qu'il est plus contagieux, mais souvent, même avec le vaccin, une fois vacciné, on peut continuer à transmettre le virus, même si on n'a pas les symptômes. Alors, peut-être qu'on a une protection qui est liée à la vaccination, mais ça n'empêche pas qu'on puisse être contaminé avec la COVID et redonner, si on veut, ou transmettre cette contamination-là à d'autres personnes qui peut-être ne sont pas vaccinées. Alors, la question se pose et on va la poser ce matin à des gens qui travaillent dans les différents syndicats, ce qu'ils en pensent, parce que les professeurs, c'est eux qui sont directement en contact avec les enfants. Et il faut penser aux enfants aussi. Il y a certains enfants qui peut-être trouvent ça encore plus pénible que les professeurs d'appliquer justement ce fameux masque. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce qu'il y a les problèmes psychologiques qui pourraient être liés à ça? Parce que vous savez que le ministre Jean-François Auberge a dit le printemps dernier, en fait, à la fin de la dernière année scolaire, qu'il n'était pas question de réimposer le masque à la rentrée. Mais est-ce qu'on va changer d'idée? Ce ne serait pas la première fois. Bon, on a beaucoup parlé de l'arrivée des touristes américains chez nous à compter du 9 août, parce que l'industrie touristique le demandait de façon importante. Tu sais, Montréal, c'est très important là, d'avoir des gens qui arrivent, entre autres, du nord-est des États-Unis, de la Nouvelle-Angleterre, pour venir dépenser leur argent américain chez nous. C'est le fun là, d'avoir des nouveaux capitaux qui entrent au Québec. Eh bien, ça pourrait être contrecarré. Imaginez, un malheur n'arrive jamais seul. Quelques 8500 employés de l'Agence des services frontaliers du Canada, les douaniers autrement dit, pourraient entamer une grève dès le 6 août prochain, quelques jours de la réouverture de la frontière. On dénonce un climat de travail qualifié de toxique, même si quand même il y a les services essentiels qui doivent être assurés par les douaniers. Ben là, il pourrait y avoir quand même un ralentissement à la frontière, parce que on ne fonctionnerait pas à capacité maximale. Et souvent, il peut y avoir aussi de la grève du zèle, là, où en fait, il y a un ralentissement lié comme pression, finalement, fait par les syndiqués. Donc, c'est une inquiétude de plus là sur l'industrie touristique. Est-ce que ça va affecter l'arrivée des touristes? On va essayer de faire le point là-dessus un peu plus tard dans cette émission. Bon, il y a plein... un autre sujet dont on a parlé un peu cette semaine, mais qui est inquiétant. Bon, vous savez, les fameux glyphosates qu'on utilise, qui sont des pesticides pour aider à la culture, là, ça favorise de meilleurs plants. Et c'est décrié parce qu'on considère que ça peut être dangereux pour la santé. Et là, il y a une consultation publique qui est faite par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. C'est une agence qui relève de Santé Canada. Alors, Santé Canada, là, normalement, c'est des gens qui sont censés protéger notre santé. Or, les petits fruits importés et produits au pays pourraient contenir jusqu'à 7 fois plus de résidus d'insecticides et de fongicides, selon une proposition que fait Santé Canada, parce qu'on pourrait permettre davantage de glyphosate à l'intérieur. Alors, ça pourrait aller, bien sûr, à l'encontre des efforts des agriculteurs qui, eux, cherchent à diminuer la quantité de pesticides. Mais là, tu sais, quand tu vois les producteurs d'ici qui voient, surtout dans le marché des petits fruits, là, il y a de la concurrence qui arrive beaucoup des États-Unis. Puis eux, ils pourraient se voir accorder des taux de pesticides plus élevés que ce qu'on a ici au Québec. Donc, davantage de production, des prix moins élevés également. Donc, il y a une espèce de concurrence déloyale qui pourrait venir de ça en même temps. Et là, il y a plusieurs personnes qui soulèvent des interrogations à savoir c'est quoi l'intérêt de Santé Canada de faire ça, d'accorder des hausses de glyphosate, justement, dans les produits qu'on consomme ici. Et l'un des personnages très intéressés de toute la question des glyphosates s'appelle Louis Robert, l'agronome, vous vous souvenez, là, qui est le sonneur d'alerte qui avait été suspendu par le ministère de l'Agriculture parce qu'il avait, justement, dénoncé les pratiques de l'industrie. Bien, il signe une lettre ouverte ce matin dans le journal Le Devoir et qui est très intéressante. Il dit... Quand l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, une agence fédérale qui est responsable de la protection de la santé publique, quand cette agence-là hésite entre deux taux d'empoisonnement que la population pourrait tolérer, il y a quelque chose qui tourne pas rond, dit-il. De toute évidence, plusieurs gestionnaires mandatés pour la défense de l'intérêt public n'ont pas fait leur travail en amont dans l'analyse de la demande de Bayer. Parce qu'il faut comprendre que si Santé Canada étudie la possibilité d'augmenter le taux de glyphosate dans les produits agroalimentaires, c'est que ça vient d'une demande de la compagnie Bayer. Bayer, là, pour vous donner une idée, là, c'est Monsanto, parce que Bayer a acheté Monsanto il y a quelques mois. Et donc là, on dit, nous autres, on aimerait ça, qu'il y en ait davantage, parce que ce serait une question de profit. Alors, ce que dit Louis Robert, il dit, oui, on utilise de plus en plus de glyphosate. Les méthodes différentes et rentables de contrôle des mauvaises herbes existent. Elles ont été développées en recherche. Toutefois, les producteurs agricoles n'y ont pas accès, faute de ressources en transfert, ou n'y croient tout simplement pas, peu encouragés par le conseil intéressé qui les encadre la plupart du temps. Là, on parle des conseils intéressés, là, on parle souvent des conseillers des compagnies qui distribuent les pesticides en question. Alors, eux autres, évidemment, quand tu représentes la compagnie Monsanto, c'est bien évident que tu vas prêcher pour la qualité de tes produits, puis c'est une job de vendeur que tu fais, là. Alors, il faut aussi bien comprendre que l'usage de glyphosate est une composante essentielle d'un système cultural dominant l'ensemble de l'agriculture nord-américaine, dit Louis Robert. Alors, c'est une question qui est embarrassante en ce moment là, pour Santé Canada et qui est qui est difficile à comprendre. Bon, on parle beaucoup d'élections par les temps qui courent. Évidemment, Justin Trudeau pourrait être tenté de dissoudre le Parlement parce qu'il est dans un gouvernement minoritaire en ce moment, puis il aimerait ça avoir un gouvernement majoritaire. Alors là, il étudie différents scénarios. Quand on voit aller Justin Trudeau depuis quelques semaines, on peut comprendre que, quelque part, toutes les annonces qu'il a faites d'un bout à l'autre du pays, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une élection. On parle de plus en plus du début du mois d'octobre. Or, le chef du NPD, Jack Meetsingh, a envoyé une lettre à la nouvelle gouverneure générale, Mme Simon, pour lui dire qu'elle n'est pas obligée d'accepter la demande de Justin Trudeau, parce que la façon dont ça fonctionne généralement, c'est que Justin Trudeau va traverser au bureau de la gouverneure générale, puis là, il va lui dire, écoutez, on n'est plus capable de fonctionner, le Parlement ne fonctionne plus, et puis on demande de déclencher des élections, et là, la gouverneure générale pourrait dissoudre le Parlement, et on lance le pays en élection immédiatement. Alors, c'est généralement la façon dont ça se passe. En fait, c'est tout le temps la façon dont ça se passe. Mais le Devoir a mis la main sur une lettre qui a été envoyée justement par Jack Meetsingh, le chef du NPD, à Mme Simon. Et dans la lettre, ce qu'on peut y lire, je vous en lis un passage. « Si le premier ministre tentait de demander la dissolution du Parlement, nous pensons qu'il est important de vous rappeler que, comme vous le savez, il n'est pas nécessaire de l'accorder en l'absence d'une perte de confiance de la Chambre. » Et là, ce que dit Jack Meetsingh, c'est que il n'y a pas eu de vote de non-confiance à l'égard du gouvernement de Justin Trudeau. Au contraire, il y a même des projets de loi qui sont passés. Le discours sur le budget a été adopté également, le discours du trône aussi, et d'importants projets de loi doivent encore être adoptés par les députés. Et si on devait déclencher des élections, ça aurait pour conséquence de rejeter, en fait, tous ces projets de loi, de les tuer au feuilleton. Alors, ça voudrait dire là que les projets de loi qui n'ont pas encore été adoptés, entre autres par le gouvernement et par le Sénat, seraient caducs et donc on devrait recommencer la démarche au complet dans un autre Parlement. Alors, c'est un... Pensez-y bien. Mais je vois mal Mme Simon dire non. Ce serait une première. Ce serait assez étonnant qu'elle le fasse. Mais la Constitution canadienne nous rappelle Benoît Pelletier, qui est constitutionnaliste, permettrait à la gouverneure générale, en théorie, là, de prendre cette décision-là. Ça n'a jamais été fait, mais c'est dans la Constitution et ça pourrait... Et même, elle pourrait demander qu'il y ait un autre chef du parti de nommer à la tête du Parti libéral pour mener le gouvernement par la suite. C'est dans les possibilités. Ça se fera pas, mais c'est dans les possibilités.